Bonjour Thibaut.
Bonjour Laure.
Vous avez bien entendu la musique. Aujourd'hui, Sans Transition vous parle d'argent. Comme pour nous tous en début d'année, l'État peine à joindre les deux bouts et il faut réaménager le budget, se mettre à jour et prendre de bonnes résolutions.
Le budget 2010 est entré en vigueur début janvier. On a annoncé, il y a quelques jours, que le déficit 2009 a été moins élevé que prévu. Le déficit reste cependant très élevé puisqu'il avoisine les 140 milliards d'euros. Gouffre de la Sécu, réforme de la taxe professionnelle, réforme de la TVA, niche fiscale, réforme de la fiscalité des collectivités territoriales. Si toutes ces mesures et tous ces termes ne vous évoquent que des choses très floues, alors...
Écoutez l'interview de Jean-Luc Albert, professeur de droit public et spécialiste des questions de finances publiques à Lyon 3.
Tout de suite, l'interview.
Bonjour monsieur, merci de nous recevoir. Entrons donc tout de suite dans le vif du sujet que nous avons retenu, donc le budget de l'État, avec une première question.
Alors comment le budget s'établit-il et comment se gère-t-il? Une question toute simple pour commencer, mais importante.
Oh oui, le budget de l'État est préparé par le gouvernement, l'autorité du Premier ministre et du ministre chargé du budget, M. Woerth, et il donne lieu préalablement à un débat d'orientation budgétaire qui permet de définir les grandes lignes politiques. Et ensuite, l'instrument juridique, le projet de loi de finances, est préparé durant le printemps, l'été, et déposé à l'automne, enfin début octobre, et déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale par le gouvernement après approbation en Conseil des ministres. Il est débattu par le Parlement qui le vote et il est parfois l'objet d'une contestation devant le Conseil constitutionnel. Une fois celui-ci ayant statué, la loi de finances adoptée, la petite loi, est alors promulguée par le président de la République et publiée au journal officiel, avec date d'effet juridique le 1er janvier de l'année qui suit. Donc on prépare en 2009 la loi de finances 2010.
Alors, vous avez dit que le Conseil constitutionnel pouvait émettre un avis négatif. Est-ce que ça a déjà eu lieu?
C'est pas un avis, c'est une décision. Oui, totalement, il y a eu un rare cas parce qu'on avait simplement voté la deuxième partie de la loi de finances sur les dépenses avant de voter. C'était Raymond Barre qui avait tenté ça. Mais habituellement, le Conseil ne censure jamais totalement une loi de finances. Mais comme vous l'avez vu en décembre, il a partiellement censuré la loi de finances à propos notamment de la fameuse taxe, ou plutôt contribution carbone, ce qui a posé un problème d'ailleurs, puisqu'elle était budgétée, et on a publié au journal officiel un texte alors que la contribution carbone n'existe pas. C'est à peu près 4 milliards d'euros qui étaient prévus, il s'est resté quand même dans les tableaux. Mais une censure partielle, il a censuré un peu aussi la réforme sur la taxe professionnelle, aussi, et d'autres dispositifs qui étaient par nature étrangers à une loi de finances. Donc, mais il n'y a pas forcément d'automaticité, l'opposition ne bouge pas forcément. C'est-à-dire que les lois de finances 2007, 2008, 2009 n'ont pas été attaquées devant le Conseil constitutionnel.
Et donc, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce une logique des résultats ou une logique des moyens? Est-ce qu'on se base sur ce qu'on souhaite ou bien sur ce que l'on peut pour établir le budget?
Alors, depuis une réforme de 2001, la loi organique relative aux lois de finances, qui a changé totalement la culture financière, la logique doit être une logique de performance et de résultat. Alors je ne sais pas si on est vraiment rentré dans cette logique totalement, si on ne fait pas en réalité de la reproduction des politiques, mais on fonctionne sur la base de mission, sur la base de programme, avec des indicateurs de performance, des rapports annuels de performance qui accompagnent les lois de règlement. Bref, le critère, c'est plutôt maintenant l'objectif du résultat et de l'efficacité, sachant que cette réforme importante de 2001 a en parallèle une sorte de travail gouvernemental d'évaluation des politiques publiques par le biais de ce qu'on appelle la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, qui est placée sous l'autorité du président de la République et qui permet d'auditer, d'évaluer les principales politiques publiques, ce qui conduit d'ailleurs aussi à une réforme de l'État, par l'appareil administratif, tout à fait conséquente. Et ça, depuis 2007, fait que le résultat, c'est que nous avons une adaptation permanente avec un objectif, c'est une plus grande performance dans l'utilisation des deniers publics.
Et quels sont les plus gros revenus de l'État? Est-ce qu'il y a une place particulière de l'impôt et quels sont les plus gros prêteurs?
Pour ce qui concerne les recettes, ce sont d'abord des recettes fiscales. Les recettes fiscales, c'est-à-dire la TVA. Nous sommes un pays qui fonctionne d'abord avec la fiscalité indirecte, donc fiscalité sur la consommation, la TVA, un peu la taxe intérieure sur les produits pétroliers, ça fait près de la moitié des recettes prévisionnelles fiscales, et ensuite d'autres impôts plus, je dirais, mineurs, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et quelques autres impôts. Pourtant, l'ISF est marginal dans cette histoire. Ça, ce sont les grands impôts directs de l'État ou indirects, comme la TVA, la TIPP. Et ça représente normalement l'essentiel. Ça ne devrait même représenter que les recettes. Après, vous avez des recettes de poche indirectes. L'État a un patrimoine. Il a des revenus indirects. Comme tout propriétaire, il essaie de gérer correctement son patrimoine, quitte parfois aussi d'ailleurs à vendre certains biens. Et quand il n'en a pas assez, évidemment, comme c'est le cas depuis fort longtemps en France, eh bien le déficit en réalité est couvert par l'emprunt. Et le problème, c'est que depuis 2 ans, l'emprunt finalement a explosé, puisque le déficit annuel est considérable, la dette explose et le déficit budgétaire explose. Les chiffres là pour 2010 sont assez parlants. Nous avons dans la loi de finances pour 2010, je l'ai sous les yeux, un problème majeur, c'est que les recettes fiscales nettes, le montant net du budget, c'est pour le budget, ce sera 163 milliards d'euros de recettes, charges 285 milliards d'euros. Vous voyez ce que je pourrais appeler l'impasse. Plus de 100 milliards d'euros, déficit budgétaire, 117, donc l'emprunt.
Donc, est-ce que le désendettement n'est pas compromis par le grand emprunt national qui est projeté pour 2010, justement ?
Il aggravera. Il aggravera le déficit et la dette, oui. Avec une nuance, c'est que, semble-t-il, le gouvernement, dans ce grand emprunt qui est mis en avant, voudrait, alors ça c'est une lecture comptable, que ça contribue à l'accroissement de l'actif, d'où l'investissement immobilier dans les universités et autres, ce qui veut dire qu'on aurait un actif en termes de biens de valeur qui s'accroîtrait aussi. Donc ce n'est pas simplement de l'argent distribué, on aurait, je dirais, une valorisation des biens supplémentaires, mais il n'empêche que dans un premier temps, la dette va s'accroître, puisqu'on nous annonce prévisionnellement une dette publique cumulée, donc là, ce sont tous les déficits dans le temps, une dette publique qui serait aux alentours de 83% du PIB français. Il y a pire que nous.
Alors justement, en parlant de dette et de désendettement, vous parlez d'une augmentation de la part...
Bien sûr, il n'y a pas de désendettement possible pour le moment.
Vous parlez d'une augmentation de la part de la dette dans le PIB, mais alors l'État a toujours été endetté, donc en tout cas, pourquoi est-ce que c'est un problème, puisque ça a toujours fonctionné comme ça ?
Oui, eh ben, d'abord parce que il est vrai que la tradition française, c'est un peu le déficit. C'est ennuyeux, mais ça remonte à l'Ancien Régime. Le seul problème, sous l'Ancien Régime, à un moment donné, les monarques n'ont pas pu rembourser la dette. La banqueroute de la monarchie, c'est-à-dire l'État, enfin la monarchie incapable de rembourser la dette ou de payer même les intérêts, parce que les choses ne rentraient plus, il n'y avait pas assez. À un moment donné, un État ne peut peut-être plus payer sa dette. Et certains États européens, même, depuis un an ou deux, je pense à l'Islande, je pense à l'Ukraine et à d'autres, ont dû appeler à l'aide pour pouvoir faire face à leur dette. À un moment donné, si la dette devient trop importante, eh bien l'État, d'abord, ne lui prêtera peut-être plus. Et à ce moment-là, comment fera-t-il ? Et deuxièmement, il faut rembourser les intérêts aussi. Donc, il y a une rémunération donnée. Et puisque vous parliez des prêteurs tout à l'heure, les prêteurs sont des institutionnels essentiellement étrangers. La dette française, qui autrefois était une dette de particulier, c'est-à-dire l'État, on lui prêtait volontiers. Aujourd'hui, cette dette a plus de 60%, et on le voit, c'est-à-dire de l'Agence France Trésor, dette négociable, est détenue par des détenteurs de capitaux étrangers. Donc il faut les rémunérer. Aux 2/3 aujourd'hui, la dette de l'État est, je dirais, entre guillemets, sous contrôle étranger. Donc ça change aussi peut-être un peu les choses. Mais à un moment donné, le problème, c'est que la charge de la dette dans le budget devient tellement lourde que vous n'avez plus aucune marge de manœuvre en termes de dépenses. Et nous y rapprochons très vite. Quand le remboursement des intérêts va occulter et va être peut-être le premier poste de dépense du budget de l'État, il y a un problème. Alors, je veux bien que la tradition française, c'est la dette, le déficit. Il paraît que c'est même un problème culturel. Moi, je compare avec nos amis allemands qui n'ont pas du tout la même vision des choses, la même culture. Et leur objectif, eux, c'est l'équilibre. Je vous rappelle aussi qu'au niveau communautaire, il y a un pacte de stabilité et de croissance qui prévoyait justement que l'objectif serait au pire l'équilibre et au mieux l'excédent. Nous sommes très loin de nos engagements européens. Alors, tant qu'on peut avoir de la dette, la gérer, la payer, pourquoi pas, elle s'accroît démesurément et il faudra peut-être maîtriser. Ce n'est pas le problème des dépenses publiques qui, cette année, en 2009, est au cœur du problème. Ce qui s'est effondré en 2009, ce sont les recettes fiscales. Et pas l'accroissement très fort des dépenses. Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées. C'est simplement, nous avons perdu beaucoup d'argent. L'impôt sur les sociétés a perdu 50% de son rendement, la TVA a baissé. Donc, à un moment donné, soit vous ajustez les dépenses, soit, tout simplement, vous êtes obligé d'augmenter les impôts. Sinon, vous avez une seule solution, c'est l'emprunt. Mais ça ne peut pas être éternel. À un moment donné, on peut d'ailleurs ne pas vous prêter, parce que vous n'inspirez plus confiance.
Donc, et à l'heure actuelle, quels sont les principaux postes de dépenses? Est-ce qu'il y a eu des inversions de tendance avec des augmentations de certains postes aux dépens d'autres?
Alors, pour être clair, sur le moyen et long terme, l'étude qu'on a faite, on a publié ça il y a quelques années à la documentation française, les tendances sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que la dépense de fonctionnement, mais au sens comptable du terme, donc ça va plus loin que simplement payer les salaires, sont quand même ultra prédominantes au niveau de l'État. Si je mets de côté la défense nationale, il y a le problème de l'équipement des forces militaires. Et là, il y a un investissement permanent qui est assuré, même si nous restructurons aussi l'appareil militaire et notre implantation territoriale. En fait, les dépenses d'investissement de l'État sont marginales ou mineures. Ceux qui investissent en France, au niveau de l'investissement public, ce sont les collectivités locales. Elles contrôlent à peu près, elles réalisent à peu près 75% des investissements publics en France. L'État, c'est qu'un tout petit peu, l'État, c'est un peu le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une tendance assez constante. Alors, ce que l'État a essayé de faire depuis 2003, c'est de maîtriser le nombre de ses agents. Alors, il l'a fait de deux façons, en transférant aux collectivités locales un certain nombre de compétences et les agents qui vont avec, ce qui est nouveau. Et puis, deuxième élément, il a réduit le nombre d'emplois. C'est la fameuse formule du 1 sur 2. C'est-à-dire que depuis 2003, nous avons une baisse tendancielle du nombre d'agents de l'État, fonctionnaires ou autres. Et cette année 2010 s'inscrit dans cette ligne qui a maintenant à peu près 7 ans de mise en œuvre.
Ce qui vous paraît pertinent par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure compte tenu des revenus de l'État, ou c'est nécessaire, ou c'est juste une mesure qui paraît apaiser le...
Non, c'est une tendance politique, c'est un choix politique, d'abord de réduire le nombre de fonctionnaires d'État. Ceci étant, en parallèle, le nombre de fonctionnaires territoriaux a fortement augmenté. Décentralisation, transfert de compétences, et les élus locaux, bien souvent, ne voulaient pas de transfert de fonctionnaires d'État, c'est un problème de 82, donc ils ont recruté leurs propres agents. Et ces dernières années, l'État a aussi transféré ses propres agents. C'est par exemple, avoir l'équipement, les lycées, etc., les agents techniques ont suivi. Je n'ai pas apprécié politiquement, je dirais, la stratégie. Je dirais que la stratégie, elle est claire. Nous avons organisé un colloque, c'est notre collègue Didier Jean-Pierre qui avait organisé ça, sur les rémunérations des agents de la fonction publique. Et dans les études que nous avions menées, on s'était bien aperçu que politiquement, techniquement, ce qu'on voulait maîtriser, c'était le coût global de la fonction publique étatique, c'est-à-dire à la fois les actifs, donc on en réduit le nombre, et aussi, puisque c'est l'impôt qui paie, les retraités, qui sont financés par le biais de pensions, financés par le budget de l'État, par la voie de l'impôt. Il n'y a pas de caisse de retraite des agents de l'État, à la différence d'autres formules, c'est-à-dire que c'est l'impôt qui paie. Donc on est dans une sorte d'enveloppe globale qui n'évolue pas, en euros, je dirais, normaux, c'est même pas en euros constants. On voit bien la stratégie politique est de tenter, je dirais, de maîtriser une très grosse fonction publique où le nombre de retraités ne cesse de s'accroître. Et ça a commencé, on le voit, ça coûte. Et du coup, vous avez une sorte d'écrasement. Puisque vous n'augmentez pas l'enveloppe globale, eh bien, le nombre d'actifs ne peut que se réduire. Après, c'est un problème de stratégie d'organisation, de réorganisation, vous le voyez d'ailleurs. Tous les services de l'État se réorganisent, fusionnent, mutualisent, avec les nouvelles technologies, ce qui contribue beaucoup quand même à une évolution, afin de pouvoir faire face à cette stratégie de maîtrise de la dépense de fonctionnement, notamment au niveau des agents. Alors, après, le budget de l'État, c'est aussi un vaste phénomène de redistribution, subventions, exonérations, et ça participe aussi de la stratégie. Mais si vous mettez les dépenses de fonctionnement, agents, le fonctionnement courant, plus le paiement de la dette, évidemment, après, il faut savoir ce que vous faites. Vous avez une très grande politique de l'État de dépenses fiscales, donc de manque à gagner pour les caisses de l'État. C'est aussi ce qui avait été un peu reproché par la Cour des comptes. Ce sont des choix politiques. On peut même vous démontrer, en période normale, 2009-2010, ce n'est pas normal. Conjoncturellement, fiscalement, ce n'est pas une période normale. On pourrait même vous démontrer que si on supprime une bonne partie de la dépense fiscale, donc des aides par des manques à gagner, on pourrait même avoir un équilibre budgétaire de l'État.
Retrouvez tout de suite la seconde partie de l'interview.